إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous en sommes arrivés au 14e péché que le Cheikh a cité dans son ouvrage, qui est la consommation d'enivrant, même sans parvenir à l'ivresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que consommer les enivrants est un grand péché. Même si sa consommation est minime et que la personne qui en a consommé n'est pas ivre. C'est-à-dire il en a consommé une petite quantité qui ne l'a pas rendu ivre ou qui ne lui a pas fait perdre sa raison. Mais c'est suffisant pour être un grand péché. C'est ça le titre. Mais en arabe, c'est shurbul khamri. Je l'ai traduit par enivrant, je vais vous expliquer pourquoi. Boire, si on le traduit mot à mot, du vin. Al-khamr. Al-khamr, en arabe, c'est tout ce qui couvre la raison. C'est pour cela qu'on appelle le voile avec qu'on met sur la tête, al-khimar. Il couvre la tête. Et al-khamr, cela couvre la raison. Donc, toute substance qui enivre ou qui fait perdre la raison, à la base, c'est toute substance qui se boit. Toute boisson enivrante. Et tout ce qui n'est pas boisson, qui se prend d'une autre manière que les boissons, qui s'avale, ou qui se sent, qui se renifle, que les gens mettent dans les veines, ou ailleurs dans le corps, ou même ce serait, je sais pas, si un jour ils inventent une drogue qui se regarde seulement, à partir du moment où cela enivre, cela couvre la raison, cela fait perdre la raison, alors il a le même statut que le vin et le khamr, que les enivrants. Il peut même avoir un statut pire, si ses méfaits sont pires que les boissons enivrantes comme le vin. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, tout ce qui enivre est du khamr, et tout enivrant est haram, est illicite. Donc là, au moins c'est clair que ce qui est voulu par cela, ce n'est pas seulement ce qui enivre de la grappe de raisin, c'est-à-dire le vin, mais tout enivrant, tout ce qui fait perdre la raison. Et les savants ont donc considéré toutes les drogues qui se prennent par un autre moyen que par la boisson, ont le même statut que le khamr, ou voire pire, si leur méfait est pire que les enivrants ou que l'alcool. Puis le cheikh a cité les textes comme à son habitude. Il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge au sujet du khamr, donc je le laisse khamr parce que c'est au sujet des enivrants, et du jeu de hasard, dit dans les deux il y a un grand péché et un intérêt pour les gens, mais leur mal est plus grand que leur intérêt. Certains vont dire, comment ce verset, il parle d'un intérêt? Oui, l'intérêt pécunier. C'est-à-dire les gens gagnent de l'argent avec ça. Un intérêt empressé, direct, qu'ils trouvent un certain plaisir au moment de sa consommation. Mais ses méfaits sont beaucoup plus grands. Il faut savoir que les enivrants ont été interdits graduellement en islam. Au préalable, ils n'ont pas été interdits, mais il y a eu ce verset et d'autres versets qui ont montré leur côté néfaste, sans clairement parler de leur interdiction, comme ce verset, pour interpeller les gens dont leur foi est solide, pour qu'ils le délaissent, sans même que ce soit interdit. Quand ils ont su qu'Allah tabaraka ta'ala parle de ses méfaits, ah, Allah ta'ala a dit que c'était mauvais et il y a plus de méfaits dedans, on le délaisse. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient surtout les Arabes dans le Jahiliya, dans la période anti-islamique, étaient des grands consommateurs de vin. Donc, après cela, il y a eu une deuxième étape qui était l'interdiction de venir à la prière en état d'ivresse.
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
N'approchez pas la prière alors que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Puis, les versets sur son interdiction formelle ont été révélés. Ceci montre, subhanallah, la grande emprise que peut avoir l'enivrant et l'alcool et les drogues sur une personne. Et qu'elle a besoin, justement, d'être désintoxiquée. Graduellement. Car tout le monde n'a pas la volonté et la foi assez solide pour interrompre directement cette chose à laquelle elle s'adonne, à laquelle elle est attachée et pour laquelle elle a une dépendance énorme. Puis l'imam a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlamu rijasum min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Ô vous qui avez cru, les enivrants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Shaytan. Écartez-vous-en, donc, si vous voulez récolter la réussite. Donc ici, فَاجْتَنِبُوهُ. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَاجْتَنِبُوهُ, c'est une des plus fortes manières d'interdire. Car il n'a pas dit juste, c'est interdit. Ijtanibou, c'est-à-dire restez-en loin, écartez-vous-en très loin. Puis il a cité la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a rapporté, lorsque l'interdiction du vin fut révélée, les compagnons se mirent à aller les uns vers les autres en disant, le vin a été interdit et il a été placé au même niveau que l'associatrie, que le polythéisme. Car il a été cité avec les pierres dressées et les flèches de divination. Et on va voir après dans le hadith aussi quelque chose qui vient dans ce sens-là.
Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma était d'avis que le vin fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Effectivement, comme il est venu dans d'autres hadiths authentiques, les enivrants ou le vin ou les drogues, elles rentrent dans le même statut, donc tout enivrant, est la mère de toutes les turpitudes. Ummul khaba'ith.
D'ailleurs, il y a des hadiths qui maudissent celui qui le fabrique, celui qui le transporte, porte, celui qui le pose, celui qui le donne, etc. Tous ceux qui sont dans la chaîne pour aider une personne à consommer un enivrant. Du fabricant jusqu'à celui qui lui pose sur la table ou qui va lui chercher pour lui faire les courses. Tous sont concernés. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, qui est un hadith authentique, celui qui boit du vin, fouettez-le. S'il récidive, fouettez-le. S'il recommence, fouettez-le. Et s'il continue la quatrième fois, exécutez-le. Ce hadith, l'imam al-Tirmidhi a dit qu'il est mansour, abrogé. C'est-à-dire que plusieurs hadiths sont venus démontrer que plusieurs personnes ont été amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait bu plus de 3 fois ou 4 fois, il ne les a pas fait tuer. Il ne les a pas exécutés, mais il les a juste, il leur a donné la peine qui est le fouet. Ou alors, certains savants ont dit que ceci revient à la décision du juge. S'il voit qu'il n'arrête pas, il boit, il n'arrête pas, il fait du mal à cause de l'enivrant, il vole, il tue, il tape, il peut décider de le faire exécuter. C'est-à-dire à l'appréciation du juge. Mais ce n'est pas un had, ce n'est pas une peine légale. Puis l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a rapporté selon Amr ibn al-Harith, que Amr ibn Shu'ayb a dit selon son père, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui délaisse la prière une seule fois à cause de l'ivresse, c'est comme s'il avait possédé le monde et tout ce qu'il contient, puis que cela lui avait été retiré. Et celui qui délaisse la prière 4 fois à cause de l'ivresse, Allah s'est engagé à lui faire boire de la boue de la dépravation. On demanda au messager d'Allah,
qu'est-ce que la boue de la dépravation ? Il répondit, le jus qui s'écoule des gens de l'enfer. Rapporté par l'imam Ahmed, c'est un hadith acceptable. Ce hadith, il était, d'après son apparence, à l'époque où il était interdit de prier ivre. Donc ici, ce hadith est venu justement mettre en garde pendant cette période ou cette étape de l'interdiction de s'approcher de la prière en état d'ivresse. Donc mettre en garde les personnes qui, à cause de l'ivresse, ne pouvaient pas s'approcher de la prière. Alors que dire si ceci était pour cette étape-là, que dire maintenant que cette étape est abolie et que les enivrants sont totalement interdits, de nuit comme de jour, en petite ou en grande quantité. Alors si quelqu'un, à cause des enivrants ou des drogues, délaisse la prière ou néglige la prière, voilà le châtiment qui l'attend. Puis l'imam al-Dhahabi a rapporté selon Jabir, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a pris un engagement envers celui qui boit des enivrants, de lui faire boire de la boue de la dépravation. On demanda, qu'est-ce que la boue de la dépravation ? Il répondit, la sueur des gens de l'enfer, ou il dit, le jus des gens du feu. Puis, il a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui boit du vin d'ici-bas en sera privé dans l'au-delà. C'est-à-dire, c'est une menace de ne pas profiter du paradis. Donc, une menace de ne pas entrer au paradis directement. Cela montre la gravité du péché. D'ailleurs, l'imam al-Dhahabi a terminé en citant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ivrogne invétéré, s'il meurt dans cet état-là, rencontrera Allah comme un adorateur d'idole. C'est rapporté par l'imam Ahmed et c'est un hadith acceptable. Comment quelqu'un pourrait se dire, subhanallah, cet ivrogne invétéré, il meurt mushrik? Non. C'est pour montrer la gravité de son péché. C'est un tishbih, comme lui. Il le rencontrera comme lui. Cela ne va pas dire qu'il a le même statut que lui. Mais cela montre que ce type de péché pousse à se comporter comme les associatres et pousse à leur ressembler dans les actes. Donc à cause de cela, il est à même ou il est menacé de rencontrer Allah comme ses idolâtres rencontrent Allah. C'est-à-dire Allah, il sera fâché contre lui dans ce sens-là, qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, les ennemis de l'islam et des musulmans ont très bien compris les méfaits des enivrants et de la drogue sur la jeunesse. Voilà pourquoi tous leurs efforts sont déployés pour que la jeunesse musulmane, que ce soit dans le monde musulman ou non musulman, perde sa foi, son honneur, sa pudeur, sa religion, son dunya et son au-delà en les faisant tomber dans la dépendance aux enivrants et aux drogues. En effet, toute personne raisonnable connaît la gravité et les méfaits des enivrants et des drogues. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit le vin, les enivrants et les drogues sans raison. Il les a interdits car ils nuisent directement aux 5 nécessités fondamentales que la charia est venue préserver. La religion, la vie, la raison, l'honneur et les biens. C'est pour cela que les enivrants ont été appelés Ummul Khaba'ith, la mère de toutes les turpitudes. Car tous les péchés jaillissent d'eux. Une personne saoul ou ivre ou sous l'effet de la drogue peut commettre tous les méfaits. Et les méfaits des enivrants et de la drogue sur la religion avant tout, car les enivrants sont un ennemi de la foi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des enivrants, innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil-khamri wal-maysiri wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'anis-salah. Shaytan, Satan, ne veut à travers les enivrants et le jeu de hasard que semer entre vous l'inimitié et la haine et vous détournez du rappel d'Allah et de la prière. Effectivement, les enivrants et la drogue empêchent les gens de prier. L'ivrogne ou la personne sous l'effet des stupéfiants manque les prières, les retarde ou bien les prie sans savoir ce qu'il fait, jusqu'à même délaisser la prière. Or, la prière est le pilier principal de l'islam dans les actes. À cause de ces enivrants et de la drogue, le cœur devient dur, il est insouciant, la crainte d'Allah diminue et disparaît, et le rappel d'Allah devient lourd. Ils conduisent à des actes comme les actes des mécréants. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ivrogne invétéré rencontrera Allah comme l'idolâtre. Car il est prêt à sacrifier sa religion pour sa passion, qui est l'alcool ou la drogue. Il ouvre les portes de tous les péchés. Car quand la raison s'éteint, le contrôle disparaît et le haram devient facile. La fornication, la violence, le meurtre, le mensonge, le vol, la trahison, etc. Allah tabaraka wa ta'ala a donné la raison à l'être humain. Et c'est ce par quoi il l'a distingué des autres créatures. Et c'est avec cette raison qu'il distingue le vrai du faux, le bien du mal. Or, les enivrants détruisent la raison. Les enivrants et les drogues détruisent la raison temporairement, puis définitivement. Les personnes deviennent comme des loques. L'alcoolique ou le drogué perd tout jugement. Il agit comme un fou, prend des décisions destructrices pour lui-même et pour les gens autour de lui. Il devient dépendant et esclave de la substance à laquelle il est dépendant et dont il se délecte à son sens. Mais il ne s'en délecte pas, il ne fait que se détruire par ce poison. C'est pour cela que toute chose qui fait partir la raison est interdite et haram. Et la drogue moderne est souvent plus destructrice encore que l'alcool. Les enivrants et les drogues détruisent les familles. Aucune chose ne détruit une famille comme les enivrants. Ils provoquent la violence conjugale, les insultes, les coups, les divorces, la négligence des enfants, la pauvreté du foyer. Combien d'enfants ont grandi avec un père alcoolique, une mère droguée, un foyer instable, un climat de honte et de peur? Alors cette personne ivre ou droguée ou dépendante à la drogue ne peut plus ni protéger sa famille. Il devient au contraire leur calamité et la cause de leur malheur et de toutes leurs difficultés. Les enivrants et les drogues ont un effet manifeste sur l'honneur et la chasteté. La personne ivre ou sous l'effet de la drogue commet la fornication, se prostitue, commet l'inceste, il viole, il se débauche, il perd toute sa pudeur. Il est prêt à tout pour pouvoir reconsommer de sa substance, même aux actes les plus vils et les plus bas. Des millions de crimes d'honneur liés à l'honneur ou des crimes sexuels sont commis sous l'effet de l'alcool et la drogue. C'est pour cela que les savants ont dit « le vin est la clé de la fornication ». De même qu'ils ont des effets néfastes sur la vie et la sécurité des gens, car les personnes ivres ou sous l'effet de la drogue commettent des meurtres, sont la cause d'accidents mortels, se suicident, commettent des agressions, se noient, commettent des incendies, des bagarres, des blessures, etc. Un homme ivre ou sous l'effet de la drogue ne respecte ni sa vie, ni celle des autres. Il met la vie de tout le monde en danger. Elle a des méfaits aussi sur l'économie. Le buveur ou le drogué, il gaspille tout son argent que pour boire ou pour se droguer. Il s'endette pour cela. Il vole pour cela. Il vend tout ce qu'il possède pour cela. Il vend même son honneur et sa personne pour cela. Il y en a même qui vendent leurs enfants pour cela. Et ils détruisent leur vie, leur avenir professionnel et toute leur économie. Et l'addiction mène presque toujours à la ruine. Une société dans laquelle les enivrants et les drogues sont répandus devient violente, instable criminelle, immorale, coûteuse pour les hôpitaux, pour la police, pour les prisons, pour tout le monde. Donc, les enivrants et les drogues ne sont pas une liberté, mais elles sont une destruction personnelle et collective. C'est pour cela que c'est une des meilleures armes que Shaitan, que les satans, hommes et djinns utilisent pour détruire la jeunesse musulmane. Les enivrants et les drogues. Et Satan utilise cela pour que la personne détruise sa foi, sa raison, sa famille, son honneur et la société. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a appelé cela Rijsum min amali shaytan. C'est une abomination provenant de l'œuvre de Shaytan. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Ummul Khaba'ith, la mère de toutes les turpitudes. Voilà pourquoi il est nécessaire à tout responsable, on a parlé la fois dernière du grand péché du dirigeant trompeur, injuste. Alors, un des rôles des dirigeants, que ce soit les dirigeants généraux de la communauté musulmane, ou bien les dirigeants d'un foyer, ou de n'importe quelle structure, d'être vigilants et de ne pas laisser ces portes de mal ouvertes et se répandre dans les lieux dans lesquels il peut établir son autorité et fermer toutes ces portes-là et interdire et donner des punitions lourdes à toute personne qui vend, qui donne, qui aide à la consommation de ces interdits.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.